France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Emmanuel Cesson, je suis né le 17 avril 1984 à Oullins, dans le Rhône, à côté de Lyon. Et je suis artiste, avec un H, parce que je joue de la harpe.
Vous entrez, je le rappelle, pour les auditeurs en 2006, donc à l'Opéra National de Paris. Et puis, quasiment 10 ans plus tard, en 2015, vous traversez l'Atlantique pour le Metropolitan Opera de New York.
Oui.
Emmanuel Cesson, quand vous passez le concours déjà pour le Metropolitan Opera de New York, c'est un rêve, c'est le besoin d'une autre lecture? Parce que, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de culturel?
Alors, il y a quelque chose de culturel, oui. L'harpe est utilisée dans les mariages.
Ce qui n'est pas du tout le cas en France.
Pas du tout le cas en France. Donc oui, l'instrument est plus présent dans le populaire, mais la harpe classique est pas du tout plus présente. Il y a même, j'allais dire, peut-être moins. Il y a moins de récitals de harpe, j'imagine, aux États-Unis qu'il y en a en Europe. Mais donc, pourquoi le mettre? Pourquoi? Parce que c'est la Mecque de l'opéra, parce que c'était New York. Voilà, c'était un rêve, je pense. Et puis, j'avais fait ça faisait 7 ans, 8 ans à l'Opéra de Paris. Et j'avais l'impression d'en toucher les limites aussi, dans le sens où je suis quelqu'un qui a la bougeotte, pas que je pensais être meilleur, mais juste que, voilà, j'avais besoin de voir autre chose.
Et de vous frotter à une autre culture, parce que là, oui, c'est quand même tout à fait différent, à la fois en termes de rythme, de répétition,
Non, mais ça c'est drôle, ça fera hurler mes collègues à l'Opéra de Paris, mais c'est vrai que je me souviens de ce côté franco-français où, on arrive en septembre pour reprendre sa saison et les collègues disent « Oh là là, je suis fatigué, oh là là, c'est dur de reprendre, etc. » Et quand je suis arrivé au Met, je veux dire, c'est un tourbillon à côté de l'Opéra de Paris. Je pense que c'est facilement 2 fois la masse de travail que ce que j'avais à l'Opéra de Paris. Le Met, c'est 7 spectacles par semaine, 7 soirées dans une matinée, et on en doit au minimum contractuellement 4 à la maison. Et souvent, c'est au moins sur 3 ouvrages différents. Vraiment, et j'exagère pas, je veux dire. Et donc, pour revenir au concours, on était, je pense, à peu près 75 harpistes. Et le truc génial au Met, c'est que c'est intégralement derrière paravent. Donc, le jury, enfin, embauche quelqu'un sans savoir qui il est. Ils embauchent un numéro. Et donc, du premier au deuxième tour, on change de numéro. Donc, je suis recruté comme ça. Et puis, donc c'était au mois de mai. Et donc voilà, je suis admis, et donc je devais commencer au mois de septembre qui suivait. Et donc voilà, donc moi j'ai préparé mon départ, j'ai dit au revoir à Philippe, Jordan. J'arrive à New York, et là je découvre des conditions de travail super détériorées, parce que la maison est vieille. Quand on entre d'un côté public, ça paraît magnifique, même si c'est un peu resté dans son jus depuis que ça a ouvert il y a 50 ans, mais les parties de coulisses... Enfin, je dis pas que ça tombe en lambeaux, mais c'est pas en très bon état.
La santé financière du maître était pas terrible.
Et ça, en fait, on le savait pas. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on le savait, mais moi, je m'intéressais pas à ça. Et très vite, ça m'a forcé à m'intéresser.
C'est Peter Gale qui dirige.
Ouais, Peter Gale qui dirige. Ça m'a forcé à m'intéresser à l'autre côté, j'allais dire, du côté qui est plus artistique, mais du côté administratif. Et j'ai compris, en fait, là, à ce moment-là, ce que c'était qu'une maison d'opéra, ce que c'était qu'un budget. Ce que c'était que entretenir une maison et surtout une maison de financement privé. Et ça, j'avais absolument pas conscience de ça à l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris, on est le plus gros budget du ministère de la Culture. Ce que couvre le ministère de la Culture, c'est quasiment l'intégralité des salaires administratifs et orchestres et chœurs et danseurs. Et donc, on a soucié de rien. Et là, j'arrive aux États-Unis. Le syndicat s'assied à la table de négociation avec le manager. Et donc, tous les 4 ans, si les résultats financiers sont pas bons, soit on peut revoir nos salaires à la baisse, soit l'assurance santé va pâtir, donc on sera plus couvert de la même manière au niveau de la santé, soit notre plan retraite va être retouché et on touchera plus que... voilà. Et donc là, tout de suite, on tombe des nues. En fait, la structure se gère entre Peter Gelb, le general manager, son équipe administrative proche, et ces gros donateurs. Son executive board, qui est un groupe très réduit de personnes extrêmement riches, qui en fait maintiennent le train de vie de la maison et qui le savent. Mais en tout cas, les jeux politiques se jouent d'une manière beaucoup plus intime et beaucoup moins centralisée qu'en France. Quand on sait parler aux bonnes personnes, on a un impact. Et même en tant que musicien de l'orchestre, finalement, on a un poids, on se sent plus important, j'allais dire, on a un poids plus important dans la maison. Et pas seulement au niveau de l'artistique, mais aussi, finalement, au niveau de la politique de la maison. Si on veut vraiment faire des choses, on peut plus, j'ai l'impression. On nous remet moins à notre place, en tout cas. On est plus écouté, et ça, je l'ai vraiment ressenti au Met, plus qu'à l'Opéra de Paris.
Donc, vont se passer avec différents chefs, James Levine, Yannick Nézet-Séguin.
Oui, j'ai vécu la fin très difficile de James Levine.
Il avait régné combien de temps?
40 ans, et c'est lui qui avait fait le son de l'orchestre. Et il y a cette sonorité des cordes en particulier, d'une épaisseur, quelque chose d'extrêmement chaud et qui est vraiment unique, que j'ai trouvé que là-bas. Et cette flexibilité et cette aptitude à s'adapter à plein de choses et cette réactivité, et ça, il a fait ça. Je veux dire, il a fait le succès de cette maison. Il a construit la maison, en fait. Et puis après, il a commencé à être malade. Il y a eu un Parkinson qu'il a pas déclaré, qu'il a caché pendant très longtemps. Puis il a commencé à être en fauteuil. Il est tombé plusieurs fois quand il était à Boston. Et moi, je suis arrivé sur une fin de règne. Et c'était terrible. Si j'avais pas eu de l'expérience, je pense que je me serais effondré au Met. Et je pense que n'importe qui d'autre qui aurait pas eu d'expérience d'orchestre ou d'opéra, il aurait pas pu tenir le poste. Parce que il pouvait plus, en fait. Enfin, il y avait certains moments où on le sentait sortir de son brouillard et où il y avait quelqu'un. Et puis d'autres où c'est la maladie qui prenait le pas, en fait. Et ça, ça a été très dur. Et même pour les musiciens, parce que il y avait beaucoup de musiciens qui étaient là depuis très longtemps, qui l'avaient admiré artistiquement de manière extrêmement forte et qui subissaient cette détérioration depuis 5, 7, 8 ans, et qui ne savait pas où se retrouver entre l'admiration pour ce qu'il, l'homme et son héritage dans la maison, et cette volonté de ne pas partir, en fait, ce fait d'être incapable de laisser, de se dire, c'est plus pour moi, je peux plus, j'y arrive plus. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Et puis après, là, le scandale, l'affaire du scandale, qui a suivi le MeToo, j'allais dire, c'est pareil, gérer ça, je veux dire, beaucoup de gens critiquent Gelb, et avec raison pour plein de choses, mais on danse sur une corde raide quand on dirige une maison comme ça et qu'il se passe des révélations comme ça. Séparer l'homme de l'artiste, c'est toujours très complexe. Mais j'allais dire, pour quelqu'un comme James Levine, il y a vraiment eu un héritage, et il a fait quelque chose, un travail exceptionnel avec cette maison qui n'était pas à ce niveau-là quand il y est arrivé et qui en est quand même ressorti extrêmement grandi. Et voilà, et l'homme à côté, effectivement, c'est innommable ce qu'il a fait, et même si ça ne sera jamais jugé et que justice sera jamais rendue, et c'est terrible pour les victimes des abus, mais voilà, et je pense que la manière dont il est décédé, malade et dans l'espèce de honte publique, il y a des gens qui diront que c'était très bien. Moi, je trouve que c'est quand même assez triste, en fait. Voilà. Et donc, on a eu l'arrivée de Yannick, en contraste complet avec James Levine, un mec humain, proche des gens, trop gentil presque, trop gentil et en même temps tellement trop gentil qu'au final, c'est comme ça qu'il s'en sort. C'est-à-dire que même dans des situations épineuses...
Il oblige, en fait,
voilà,
une forme de...
Par sa bonté, par sa rayonnance, j'allais dire, il y a quelque chose d'extrêmement solaire chez ce mec. Et il est, humainement, j'ai eu des expériences avec lui. Donc, parce que les deux premières sessions en 2015, c'était donc Tannhauser avec James Levine et Othello avec Yannick Nézet-Séguin. Et je me souviens, la première fois dans la fosse, c'était une répète d'Othello, donc c'était pas encore sur Tannhauser. On avait commencé la fosse avant avec Othello. Je me souviens d'entendre cette ouverture. Je me souviens de fondre en larmes, parce que c'était ma première fois que j'étais dans la fosse du Met. Et j'ai pas pu retenir mon émotion, quoi. Parce que cet orchestre, cette énergie, et puis Yannick, dans sa générosité, voilà. J'ai pleuré à chaudes larmes, je me souviens. Ma collègue qui comprenait pas ce qui, parce qu'elle m'a déjà vu une deuxième harpe là-bas, qui comprenait pas ce qui m'arrivait. Mais voilà, c'était le maître. J'étais arrivé, il y avait quelque chose, ouais, d'extrêmement fort. Et Yannick, voilà. Yannick, ensuite, qu'est-ce que, très belles expériences, le dialogue des Carmélites.
Parce que là, bon, théâtralement, le maître, c'est pas tellement là que ça se passe.
Non.
Mais par contre, en termes de musique et de voix.
Aïe, aïe, aïe. Othello, c'était, je pense que c'était Sonia. Ce premier Othello. Sonia Yoncheva. L'air de Desdémone, là, avec la harpe, donc pas pour le troisième acte, mais au premier acte, on l'accompagne une première fois. Ça monte tout en douceur à la fin, leur scène d'amour, leur première scène d'amour, là, c'était, je me souviens, j'avais les poils. J'ai rarement eu les poils dans la fosse comme ça, comète. Et en plus, parce que la fosse est plus petite, on a encore un sentiment d'intimité supérieur à la fosse de l'Opéra de Paris, de Bastille, qui est un peu sèche musicalement. Là, au Met, on est vraiment plus au contact encore de la musique. Donc c'était encore plus fort, ce que j'ai ressenti là-bas. Donc oui, un Othello avec des gens comme ça, puis vraiment, oui, les Calera, Botta dans Tannhauser, les Trebko au moins une fois par an. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, bah si, j'ai eu les dernières années de René Fleming, son dernier Rosenkavalier, sa dernière Marshaline. Donc là, j'ai découvert la voix et tout ce qui est au service de la voix.
France Musique, les grands entretiens d'Emmanuel Cesson.
Alors Emmanuel Cesson, après 15 ans de fosse, vous ne traversez pas l'Atlantique pour revenir en Europe, mais vous traversez les États-Unis pour passer sur l'autre côte,
oui,
et pour vous rendre à Los Angeles.
Tout
ça, c'est 2020.
Oui.
Vous nous en parliez d'ailleurs en ouverture de cette semaine, hein, de cette temporalité, où d'une certaine façon, on peut dire vous avez eu le nez creux, mais en tout cas, voilà,
oui,
vous partez vous installer à Los Angeles, et vous arrivez donc harpe solo à l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, qui est placé sous la direction de Gustavo Dudamel.
Tout à fait.
Gustavo Dudamel qui vient d'être nommé le directeur musical de l'Opéra.
C'est très drôle, il revient dans l'autre sens.
C'est ça, c'est lui qui traverse maintenant,
ouais,
l'océan. Donc là, ce que vous cherchez, après ces 15 années de fosse, c'est un autre répertoire, une autre manière aussi de vous exprimer avec votre instrument, et peut-être un peu de souffle
ouais,
pour panacher davantage les
c'est
choses.
C'est ça, donc c'est un peu une combinaison de tout ça. Il y avait 15 ans d'opéra, finalement, j'avais quand même vu l'essentiel du répertoire intéressant. Et au Met, vu que c'est une maison qui joue 25 productions par an en boucle, j'ai quand même fait presque une centaine de bohèmes en 5 ans de Met. J'ai joué beaucoup de fois bohème et je commençais à perdre un peu le souffle. La deuxième chose, bon bah déjà, il faut que la place se présente. Et donc, le LA Phil, j'en avais beaucoup entendu parler parce que il y a quand même trois de mes collègues du Met qui sont partis là-bas. Et donc, ils me faisaient tous un peu des appels du pied quand la harpiste partait à la retraite. Et ils m'ont dit, allez, il faut que tu viennes, tu vas être super chouette et tout, tu vas voir. Bon, alors je me dis, ok, chouette, pourquoi pas, Los Angeles, c'est un changement. Moi, ça faisait, j'étais marié depuis 2 ans. Mon mari étant acteur de formation, je me disais que s'il voulait trouver un boulot aux États-Unis, ce serait peut-être plus facile sur la côte ouest aussi, en étant près de l'industrie du cinéma, etc., d'Hollywood. Mais bon, c'était pas la première chose qui a présidé à mon choix, c'était aussi Dudamel. Mais Dudamel, j'avais finalement jamais travaillé avec lui. Je l'avais vu diriger, j'avais beaucoup d'affection pour lui parce que j'avais commencé en Colombie, en Amérique du Sud, et j'avais une passion pour l'Amérique du Sud parce que c'est des gens qui sont extrêmement instinctifs et qui vivent la musique de manière très intense. Et donc, j'admirais beaucoup ça en lui, même si, encore une fois, j'avais jamais travaillé sous sa baguette parce qu'il était venu pour un Othello au Met et j'étais pas dessus. C'était comme ça. Donc oui, il y avait Dudamel et puis il y avait l'idée de changement de répertoire. Donc tout ça combiné, les collègues qui font un appel du pied et le fait qu'ils me disent en plus, vu que tu es en place au Met, tu peux être exempté du tour préliminaire. Donc c'était aussi une chance, j'allais dire. Donc j'arrive à l'audition de Los Angeles. Donc c'est un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque audition de ma vie ou même concours que j'ai passé, donc, aux États-Unis il y avait ma sœur, mais sinon j'ai toujours eu... ma meilleure amie, qui est une pianiste, avec qui on a fait nos études ensemble au CNSM, qui s'appelle Anna Petron, qui est plus qu'une amie, en fait, c'est un peu mon coach aussi musical. Tous mes disques que j'ai faits, elle est présente en cabine, c'est elle qui travaille sur les plans de montage et sur les montages. Et tous mes concours, que ce soit l'ARD à Munich, le concours où je suis rentré à l'Opéra en 2006.
L'ARD, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps de tout développer, mais l'ARD, ça a été très important, et notamment aussi pour développer une carrière,
en Europe. C'était l'idée, ouais, il y a le concours international de l'ARD. Mmh. Et donc Anna, ma meilleure amie, Anna Petron, a été toujours avec moi dans les étapes de préparation et m'a accompagné pour tous ces concours divers et variés. Elle était là au Met et elle était là à Los Angeles aussi quand j'ai passé l'audition. Et donc à Los Angeles, c'était drôle, j'arrivais, j'avais mon poignet qui m'ennuyait un petit peu. J'avais des problèmes depuis très longtemps déjà, depuis une dizaine d'années, de kystes qui se réveillaient de temps en temps, surtout dans les périodes de gros travail. Mais bon, bref, donc j'avais mon poignet qui m'ennuyait un petit peu quand j'ai fait ce concours à Los Angeles. Et donc, deuxième tour, ça se passe plutôt bien. Et j'arrive au troisième. Et puis, je me plante. J'avais pareil, 2 mesures que j'ai plantées dans les danses de Debussy. Donc, pour moi, pareil, c'était la fin du monde. J'avais planté ma finale, gna gna gna. Et en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que dans les orchestres symphoniques, c'est derrière par avant l'intégralité. Et après la finale, il y a une super finale où ils font, si besoin, revenir des candidats, s'il y a eu une hésitation, pour jouer sans le paravent. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi sans qu'ils ouvrent le paravent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de super finale. C'est-à-dire que l'administratrice est venue me voir, elle m'a dit « Oui, le jury va vous parler. » Moi, je me dis « Ça y est, ils vont me dire qu'ils veulent réentendre mes danses parce que je me suis planté. » Et en fait, je rentre dans la salle du concours, elle me conduit derrière le paravent et la Gustavo, les bras grands ouverts, me disant « Bienvenue chez nous. » Voilà. Et c'était une expérience assez géniale.
De la harpe, et on en parle évidemment depuis qu'on a commencé cette semaine ensemble, Emmanuel Cesson, mais la vôtre propre, je veux dire, c'est quoi votre relation à votre harpe?
Alors, c'est une personne, effectivement, c'est en tout cas, c'est une rencontre. Et donc, moi, j'avais une harpe qui était, j'allais dire, la harpe de ma vie, que j'ai choisie aux États-Unis. Je me souviens, je l'ai choisie, j'avais fait voyager mes parents aux États-Unis pour leur premier voyage, ils n'avaient jamais mis les pieds aux US. Et donc, le magasin de harpe américaine que je jouais est à Chicago. Donc, je les avais emmenés à Chicago. C'était un peu une folie. Mais j'ai essayé cette harpe là-bas à Chicago et je l'ai choisie. J'en suis tombé amoureux. Et donc, elle est venue ensuite, elle m'a suivi en Europe. Et cette harpe, c'est avec elle que j'ai fait mes meilleurs disques. Et en fait, je suis parti aux États-Unis avec en 2015. Et il s'est passé un cauchemar. L'ascenseur de fosse a été actionné quand la harpe était encore partiellement sous ce qu'on appelle la calotte. Et en fait, la harpe s'est retrouvée complètement compressée. Donc, elle a été destroy.
C'était
Rita. Et en fait, elle a été nommée par une des percussionnistes du Philharmonique, Elisabeth Laure, une des premières femmes de l'orchestre, qui est hélas décédée il y a quelques années.
Philharmonique de
Radio France. Qui a été ma petite mère de l'orchestre quand j'y faisais des séries. Et elle a appelé Marp Rita parce qu'effectivement, elle m'avait vu buter 4 fois à l'entrée de l'orchestre Philharmonique. Elle a dit, écoute, c'est la sainte des causes perdues. Donc voilà, le Philhar, c'est une cause perdue maintenant que t'es rentré à l'opéra, donc tu peux l'appeler Rita. Et donc cette Rita, elle est morte dans la fosse du Met en 2015. Et donc après ça, il fallait que je me trouve une autre harpe, et j'ai rencontré cette harpe rouge, de même finition. C'est un modèle art déco qui a été designé d'après le nom d'un grand harpiste français qui vit aux États-Unis, Carlos Salcedo, en 1927. Bref, bon, pas rentrer dans les détails. En tout cas, je joue cette harpe rouge pour les 150 ans du fabricant de harpe américain, et... jolie rencontre, pas aussi bonne que celle que j'avais et qui avait été détruite au Met, mais quand même. Je l'ai dit, celle-là, elle est pour moi. Et ensuite, l'instrument rouge et la couleur rouge me sont restés attachés. Mon dernier projet discographique est autour de la couleur rouge. C'est ma marque de fabrique. Voilà.
On va refermer ce grand entretien, Emmanuel Cesson. Évidemment, il y aurait 1000 choses à dire. J'imagine qu'il y a quand même, sans doute, évidemment, dans ce caractère qui est le vôtre, boulimique, passionné, des envies, des futurs. Vous êtes à peine arrivé à Los Angeles, mais peut-être qu'un jour, vous aurez envie d'aller encore ailleurs sur votre échiquier, comme ça, quand vous regardez un peu ce qui pourrait vous faire envie. Et c'est loin, c'est très loin.
Non, mais j'ai déjà des idées. Hein, je peux pas vous dire le contraire. Il y a plusieurs choses. Je pense, de toute façon, et ça, c'est comme mon mari, comme pour moi, on ne se voit pas vieillir aux États-Unis, ni lui ni moi. Donc là, je pense que c'est une étape dans ma carrière. J'ai envie d'être encore dans le tourbillon. C'est dans ma nature de vouloir faire plein de choses. Et je pense que voilà. Mais je pense qu'à bout d'un moment, j'en serai fatigué. Et je pense aussi, j'ai eu ces grands professeurs qui mettaient la musique au-dessus de tout. C'est des gens pour qui la musique passe avant tout, et aussi le don. Et moi, même si j'enseigne, j'enseigne toujours dans ce tourbillon, je m'investis, mais je peux pas m'investir autant, par exemple, qu'elles m'ont donné, elles. Je pense que quand j'en aurai marre, dans quelques années, du tourbillon, des voyages permanents, je pense que j'aimerais me poser et transmettre. Et je pense que l'Europe, là-dessus... s'y prêtera mieux qu'aux États-Unis, parce que il y a un grand manque aux États-Unis, et c'est un manque qui ne changera jamais, c'est que dans l'éducation musicale des enfants américains, il y a une grande lacune théorique. Même si l'instinct est primordial et sur scène il doit être présent, la connaissance intellectuelle et intrinsèque et technique de la musique est aussi essentielle. Et je trouve qu'en Europe, et particulièrement en France, même si ça fait hurler et ça décourage beaucoup de jeunes musiciens en herbe, l'apprentissage théorique et le développement du sensoriel, de l'oreille, sont essentiels. Et cette théorie est aussi essentielle pour comprendre bien la musique plus tard. Et même la musique contemporaine. Je veux dire, on comprend mieux la musique contemporaine quand on a des référents théoriques et quand on peut vraiment avoir travaillé sur une partition sans être complètement à l'instinct, je trouve. Et je pense que ce travail d'enseignement et de transmission, je pourrais pas le faire aux États-Unis. Donc voilà, il viendra un moment où l'Europe, on y reviendra, c'est sûr.
Nous nous quittons avec notre artiste à Liège en 2016 qui interprétait le concerto de Glière sous la direction de Christiane Arming. Ainsi se termine cette série avec Emmanuel Cesson, réalisation Christine Amado, prise de son Michel Gassic, mixage Sébastien Royer, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.